voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi.
Communication de la Passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, quoi. C'est, sans parler des oiseaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'à un autre iceberg. Mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion. On va aller sur l'île des Pétrelles, sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Un été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Deuxième épisode. Les hivernants dans le pack.
Jeudi 6 décembre, après 3 jours d'une mer suffisamment agitée pour laisser une grande partie des expéditionnaires enfermés dans leur cabine, le vent est tombé et avec lui la température. À l'approche du cercle polaire, la lumière change, elle devient plus vive, plus intense. Des nuances de bleu nuit de l'océan austral à cette ligne blanche qui ne quitte plus l'horizon et qui laisse imaginer les prémices du continent de glace. Des visages éreintés réapparaissent sur le pont de l'Astrolabe. L'excitation monte pour les futurs hivernants qui vont passer une année entière sur la base du Mont d'Urville.
À partir de demain, on rentre dans le pack. Donc, je vous rappelle pour les passagers qu'on a bien mis une petite sangle bleue. C'est pas une slackline. C'est bien pour éviter que vous n'alliez au-delà d'une certaine limite plage avant. Le bateau, il est assez brutal quand on rentre dans la glace. Quand on tape, quand on monte sur certains glaçons, il y a des mouvements un peu désordonnés. D'autre part, la présence ou le risque de neige dès ce soir, ou en tout cas demain dans le pack, risque de rendre les ponts glissants. Donc quand vous vous déplacez à l'extérieur, pensez protéger vos yeux, protéger votre peau, le froid. Mais voilà, soyez vigilants quand vous vous déplacez, parce que clairement, même s'il y a un grip sur le pont, c'est glissant, vous pouvez finir par terre. Ça fait assez mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Claire Valentin, donc vous êtes la médecin de référence, c'est ça le terme? Comment est-ce que vous êtes arrivée à vous retrouver aujourd'hui ici sur ce bateau à destination de l'Antarctique?
Parce que pour moi c'est le moment, j'ai pas encore d'enfant, c'est une expérience humaine qui m'a attirée. Au niveau professionnel, on est obligé d'être très polyvalent. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Moi, je suis médecin généraliste et urgentiste. Et sur le plan professionnel, c'est clairement un défi puisqu'on apprend des rudiments de dentisterie, de chirurgie. Est-ce qu'on sera la seule personne compétente s'il se passe quelque chose?
Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie d'une sorte de famille de derniers aventuriers sur cette planète?
Alors, c'est plus une aventure comme à l'époque de Charcot où c'était un billet sans retour un peu. On savait pas qu'on allait rentrer. Là, c'est très cadré. On a quand même des moyens de communiquer. On fait pas n'importe quoi non plus. On a des vivres sur place. Hein, tout le soutien logistique est conséquent. Maintenant, l'aventure, elle est plus humaine, je pense. Parce qu'on est en milieu confiné. Les 8 mois d'hiver, on est 23 en milieu confiné. Je pense on verra l'année prochaine. Je sais pas, mais j'imagine qu'on est un peu en dehors du temps quand même. Quand on est sur une base comme ça, isolée, même si on peut communiquer un petit peu, tous les soucis, on les laisse, qu'il peut y avoir en métropole, on les laisse derrière nous. Et le temps s'arrête quelque part. Effectivement, on est hors du temps, quoi. C'est un peu comme être sur une autre planète.
Christophe, le roi de Santos, c'est un retour en Antarctique. Vous y êtes allé une première fois, une année entière. C'était quand? Comment ça s'est passé en fait ce premier hivernage?
Oui, c'est un retour, et un retour souhaité d'ailleurs.
Donc j'ai passé toute l'année, quasiment toute l'année de 2013 en Antarctique, à Concordia cette fois-ci, donc à Domsay sur le plateau. Au contraire d'aujourd'hui, ou enfin de là où je vais à Dumont-d'Urville. Et ça s'était très bien passé, enfin avec des hauts et des bas lors de l'hivernage, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une expérience excellente.
À quel moment ça naît dans l'esprit, dans un parcours professionnel, l'idée de partir en hivernage, de partir en Antarctique pendant une année complète, dans les conditions difficiles que l'on suppose être celles que vous avez vécues pendant un an?
En fait, dans mon cas, c'est un peu particulier. La plupart des gens, effectivement, 99% des gens, sont des gens qui en ont le désir depuis longtemps. Et en général, donc, on est sélectionné, recruté par l'IPEV ou par le laboratoire qui nous envoie, enfin bref, peu importe, dans les 6 mois avant le départ. Dans mon cas, j'ai soutenu mon diplôme de master en septembre, et début octobre, j'ai reçu un mail, enfin en fait, toute ma promo a reçu un mail d'un projet scientifique qui recherchait de toute urgence quelqu'un pour partir en Antarctique pendant un an. J'ai répondu tout de suite, j'étais en train de chercher un travail, il y avait deux boulots, un qui me proposait d'aller à Orsay, un qui me proposait à Versailles, et j'ai reçu un mail, j'y ai répondu, on m'a répondu dans la minute, et en fait j'ai même pas eu le temps de re-répondre qu'on m'a appelé. Si tu dis pas oui, on prend quelqu'un d'autre dans la minute. Voilà, donc un coup de fil à ma copine en lui disant je peux pas dire oui, sinon on s'en voudra, toi et moi, toute notre vie. Et donc je dis oui, et le dimanche qui suit, donc 3 jours après, je pars pour 2 semaines en Italie pour une formation, un premier secours, formation pompier, etc., etc. Une semaine après les 2 semaines, je suis à Cologne pour rencontrer tout le monde. Après, je vais faire mes examens médicaux. Enfin, en gros, il s'est passé moins de 2 mois entre le moment où j'ai dit oui et le moment où je suis parti. Donc vraiment, une expérience un peu particulière parce qu'on me l'a amené sur un plateau et j'ai juste pas pu dire oui.
Voilà. Pas pu dire oui ou pas pu dire non? C'est rigolo, ça fait 2 fois que vous faites le lapsus. Vous avez dit je peux pas dire oui, sinon je vais le regretter toute ma vie.
Ah, c'est marrant. Non, je pouvais pas dire non. Enfin, vraiment, je pouvais pas dire non. Je pouvais pas dire autre chose que oui. J'appelle ma mère qui me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est n'importe quoi et tu vas laisser Adèle toute seule. » Qui m'engueule, quoi. Mais moi, je me suis rendu compte de ce que je faisais au moment où j'ai pris l'avion depuis Paris pour aller jusqu'à Hobart. Et c'est le moment où j'ai dit au revoir à Adèle à l'aéroport où j'ai compris que je prenais quand même le risque de la perdre, donc que cette expérience avait intérêt à en valoir la peine.
Vous l'avez perdue?
Non. C'est retrouvé, ça a été très compliqué. Elle qui a continué la vie en m'attendant pendant un an, moi qui ai vécu quand même une forme de vie parallèle, qui a mis d'une certaine façon ma vie entre parenthèses, en pause, enfin ma vraie vie, entre guillemets, comme on dit quand on est sur place, en parlant de sa vie sur le continent. Mais ça a été compliqué, mais oui, on s'est retrouvés. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Voilà.
Si vous deviez retenir un moment, un souvenir, quelque chose qui a été certainement décisif et que vous porterez avec vous jusqu'à la fin?
Le plus beau souvenir que j'ai, je pense que c'est le ciel. Et en l'occurrence, là, il y a vraiment 6 mois pendant lesquels on sort et en allant au travail, on voit la Voie lactée au-dessus de nous qui tourne. On voit la Lune comme on a l'impression de l'avoir jamais vue. On a l'impression d'être sur la Lune. Et donc, c'est cette sensation continue pendant au moins 6 mois où on a vraiment l'impression d'être sur ailleurs et d'être dans l'espace. Et c'est ça qui est le plus fou. Et à chaque fois que je regarde le ciel aujourd'hui, il y a des fois où il est très beau, etc. Mais je n'ai jamais réussi à retrouver l'évasion que j'avais en regardant le ciel depuis Concordia.
Et à l'inverse, le moment le plus difficile, la période la plus compliquée pour vous, c'est, si vous deviez l'identifier, ce serait laquelle?
C'est pas très compliqué. Il y a eu 2 moments, il y a 2 décès de mes proches. Un, c'était mon grand-père. J'étais énervé de ne pas ressentir la peine que je devais ressentir pour mon grand-père. Et par contre, j'ai aussi un ami qui est parti dans des conditions particulières. Et ça a été très très douloureux parce qu'en fait, j'ai pensé à tous mes autres amis qui étaient concernés, pour lesquels je ne pouvais pas être là. Et ça a été, je me suis enfermé 3 jours dans ma chambre.
Je m'appelle Alain Quiveron et je vais occuper le poste de chef de district de Terre Adélie sur la base de Dumont-d'Urville en Antarctique.
On parle d'un mal antarctique à proprement parler qui est lié à l'absence de lumière, à la difficulté à sortir, au sentiment un peu de claustration parce que, évidemment, mettre le nez dehors quand il fait moins 70, on ne prend pas du tout l'air, c'est pas du tout reposant, c'est même physiquement éprouvant. Vous avez constaté ce mal-là, c'est une réalité avec laquelle il faut réussir à composer?
Alors, tout ce qui touche effectivement à ce côté un petit peu psychologique est effectivement bien identifié. Il y a une évolution psychologique de l'hivernant tout au long du séjour. Hein. On sait que ça commence par une phase d'excitation, de découverte. Les gens sont heureux de découvrir, de faire plein de choses. Donc tout le monde est remonté à 100%. Généralement, à la fin de la campagne d'été, quand les campagnards d'été s'en vont, que le groupe d'hivernants se retrouve seul, il y a une baisse de forme hein, générale. Voilà, et puis ainsi de suite. Il y a des moments clés dans l'hivernage. Il y a la midwinter, où ça remonte, où ça redescend, etc. Tout ça, c'est parfaitement identifié. La nuit quasi permanente en juin, puisque en juin, par exemple, au plus fort de l'hiver austral, on a uniquement 2 heures de jour. Les affaires température, etc. Oui, oui, non, mais c'est une évidence. Oui, ce sont des choses qui existent. Voilà.
Vous avez certainement entendu parler, et ça a beaucoup défrayé la chronique quelques semaines avant le départ de cette nouvelle mission d'hivernage. Ça s'est mal passé dans une station russe. Il y a eu des échanges de coups de couteau pour avoir révélé la fin d'un livre. Pour vous, c'est totalement anecdotique. Quand vous voyez passer ce genre d'informations-là, vous comprenez ce qui se passe, vous voyez quel est le cycle de violence qui n'a pas été réfréné. Comment est-ce que vous le percevez ?
Ah ouais, c'est effectivement extrême. C'est extrême, mais c'est vraiment révélateur. Un hivernage, en particulier à la fin de l'hivernage, lorsque les gens sont fatigués, éprouvés, hein, on arrive à des réactions qui sont complètement différentes de celles qu'on peut connaître dans la vie normale, entre guillemets. Hein, des choses qui passeraient un peu dans le bruit de fond en France prennent une importance, mais complètement démesurée. Et on arrive effectivement parfois à des réactions qui ne sont pas adaptés, mais voilà, mais c'est ça, c'est la vie sous les districts, c'est exactement pour ça que je suis mis en place, hein, pour effectivement essayer de faire en sorte que ce genre de coups de sang, qui vont forcément se manifester à un moment ou à un autre, soit géré de la meilleure façon possible.
Claire Valentin, donc vous êtes aussi garante, d'une certaine manière, d'un suivi psychologique ou psychiatrique au cas où il y a des problèmes, des dysfonctionnements de ce côté-là ?
Oui, bien sûr, oui. On est garant de la santé mentale, enfin physique et mentale, effectivement. Et c'est des symptômes de dépression un peu, c'est des symptômes anxieux, de la paranoïa, ce qu'on appelle une anhédonie, enfin aucun désir, aucune motivation.
On parle aussi de ce regard de l'hivernage, c'est-à-dire un regard qui, à 10 mètres, regarde à 12, c'est-à-dire le regard un peu perdu, un peu dans le flou, dans le vague.
Bon, je pense que ça arrive forcément, il y a des moments où c'est aussi une façon de se protéger, de s'isoler, de regarder dans le vague, je pense d'avoir un peu de temps pour soi. Et quand on est les H24 les uns sur les autres, c'est important. Maintenant, il faut pas que ça devienne pathologique, et c'est là de détecter quand ça va vraiment pas. S'il y a une personne qui s'isole tout le temps, qui vient jamais au repas, probablement qu'il va falloir aller creuser, voir ce qui va pas derrière. Sachant que maintenant on communique par mail avec la famille, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe dans la famille des autres hivernants. Et donc il faut faire attention aux petits signes, que chacun fasse attention aux petits signes pour désamorcer ce qui va pas à temps, quoi.
Personnellement, est-ce qu'on se met en condition ? Est-ce qu'on s'imagine ? Est-ce que vous vous figurez vraiment ce que ça va être, ces 8 mois d'isolement total ?
Oui, on se prépare aussi mentalement. On prépare aussi la famille, parce qu'on ne peut pas rentrer s'il se passe quelque chose. On a des mâles qui sont partis il y a 3 mois quasiment. Donc ça aussi, on prépare tout ce qu'on met dedans, de quoi se faire un petit cocon sur place, je pense, d'avoir des occupations aussi. Pas évident, faire les mâles et faire les valises, ça a été compliqué, je trouve. Parce qu'on a envie de tout prendre, et en même temps, il y a plein de choses qui ne vont pas me servir, et pourtant, je suis sûre que j'ai oublié des trucs.
Qu'est-ce qui a été important d'emmener pour vous, pour reconstituer un milieu familier ?
Quelques photos, bien sûr, des photos, des vêtements aussi, parce que passer un an sur base, je ne suis pas sûre de mettre des robes tous les jours, mais il y en a quelques... Voilà, moi je suis une femme, je pense que ça change pas mal par rapport aux hommes, mais je sais que j'ai amené des choses pour m'habiller bien à l'intérieur, pour se faire plaisir aussi.
Sur le fait justement d'être une femme, 2 femmes sur 23 hivernants, est-ce que ça aussi est quelque chose que vous appréhendez complètement ? Comment est-ce que vous le vivez ?
Ça me fait pas peur, maintenant je suis contente qu'on soit deux, parce que je pense que pour échanger, on n'échange pas de la même manière avec des hommes qu'entre femmes, et du coup c'est bien d'être pas toute seule.
Comment vous êtes retrouvé ici, Gaëtan ?
J'ai candidaté pour avoir un poste de chef météo à cette base.
J'avais entendu parler depuis plusieurs années de ces missions en Terra d'Ali et j'avais envie de tenter l'aventure. Moi, en fait, j'avais un peu peur que le temps soit long là-bas et que les gens me manquent en métropole. Mais on m'a dit, tous ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'est exactement l'inverse, que le temps passe tellement vite que, ben, par exemple, tu prévois de lire l'intégrale de Tolstoï, ce genre de choses. Finalement, t'as pas le temps. Et pareil, au niveau de toutes les affaires personnelles, on a droit à 120 kilos de matériel pour l'hivernage. Et j'ai eu du mal à... Je voulais aller jusqu'à 120 et du coup, j'ai pris des trucs totalement inutiles. Et,
par exemple ?
Des kilos et des kilos de livres que j'ai déjà lus mais que je pensais pouvoir relire à tête reposée là-bas. J'ai pris une clarinette. Enfin, en fait, j'avais un peu l'impression de déménager, de vouloir prendre ce qui me tenait à cœur, alors qu'en fait...
Vous vous décririez comme quelqu'un d'aventureux, vous aimez les expériences nouvelles, vous êtes plutôt en quête de sensations fortes ou pas du tout, vous faites violence pour partir ?
Ah non, je me fais pas du tout violence, je suis pas non plus en quête de sensations fortes, tout ce qui est grand 8 dans les fêtes foraines, en général j'évite parce que ça me donne mal au cœur. C'est surtout l'exploration, l'évasion en fait, voilà, l'évasion aussi bien géographique que humaine, parce qu'au final j'ai resté plus d'un an dans un groupe d'une vingtaine de personnes en hivernage, que je ne connaissais pas avant de partir et avec qui on va sûrement avoir des liens amicaux très forts à la fin. Et se dire qu'on est dans la même aventure, ça met tout le monde un peu à égalité. Donc c'est assez excitant, je dirais.
Le truc un peu bateau, c'est qu'on dit qu'on se connaît mieux à la fin d'un hivernage, mais je pense que c'est complètement vrai. En fait, on n'a pas le choix parce qu'on est... On est coupé du monde, non coupé de toute réalité. Ses amis, sa famille, qui sont normalement ses repères moraux, sont plus là. Donc, c'est pas qu'on se recrée une personnalité, mais il y a des choses où on est un peu seul face à des décisions. On en apprend plein sur soi, surtout aussi l'année qui suit, le retour où on peut être mal, etc. Bref.
Le retour est compliqué ?
Dans mon cas, ça a été 2-3 mois d'euphorie. Et c'est ce qui a été compliqué, oui, ça a été 6 mois après le retour, de commencer à se dire, ok, parce que la plupart des gens, 90% des gens, lâchent un boulot pour y aller, et donc après, il faut re-choisir un autre. Enfin, je suis parti d'Antarctique, la boule au ventre, les larmes plein les yeux, parce que je me doutais que je quittais une expérience que je ne pourrais jamais retrouver. Quand j'ai compris l'influence que ça avait eu sur moi, etc., j'ai été guidé par l'envie de retourner en Antarctique.
Vendredi 7 décembre. Sur les images satellites apparaît une large zone plus claire, éparse, qui nous sépare du continent antarctique. Cette zone, c'est le pack, une vaste bande de glace de mer, plus ou moins épaisse, plus ou moins dense, qui parfois empêche l'accès de l'astrolabe à la station du Mont d'Urville.
Damry, fort éclair. Pour toi, est-ce que le cap est bon pour entrer dans le pack ?
Affirmatif, on pourrait venir de 10 degrés sur la droite.
Reçu, je prends 10 degrés sur la droite.
C'est quoi la manœuvre, lieutenant, maintenant, là, pour rentrer dans le pack ?
On essaie de trouver la route la plus adéquate. Donc on va essayer d'éviter la glace compacte.
Donc c'est vraiment juste en visuel ? Vous n'utilisez pas du tout vos instruments radar et...
On privilégie la vue.
Baleine à 23h.
Ah, joli. Alors on est chanceux aujourd'hui.
Sur la faune marine ?
Sur la faune marine, aussi sur les conditions de glace. On n'a pas beaucoup de glace cette année, donc on va progresser très rapidement vers des DU. On va certainement battre des records aujourd'hui.
C'est-à-dire que là, pour le moment, le temps d'arrivée estimé, c'est à quelle heure ?
Difficile à dire pour l'instant, parce qu'on peut rester bloqué à un endroit où à un moment, la progression peut s'arrêter net. Difficile à dire pour le moment.
Ah, il y a un comité d'accueil là-bas, des manchots.
Moyen, c'est 200, 195. Je modifie un peu la route.
C'est la grosse plaque que vous voyez devant moi sur tribord.
Alain Quiveron, chef de district de la base du Mont d'Urville en Antarctique.
C'est bien ça. Je suis issu de la Marine nationale où j'ai passé 31 ans de ma vie, ce qui suppose énormément de déplacements. J'ai parcouru à peu près tout ce qu'on pouvait parcourir comme océan. Je n'ai pas tout vu, loin de là. Mais je pense qu'on ne peut pas passer 31 ans de sa vie dans ce contexte-là Et puis le jour où on a quitté donc ce, enfin pour ce qui me concerne, l'institution qu'est la Marine nationale, se retrouvait du jour au lendemain sans ces paysages nouveaux, sans ce côté découverte. Voilà. Cette possibilité d'aller découvrir les terres australes a bien coïncidé avec mon départ de la marine, et c'est très bien comme ça.
Ce qui est intéressant quand on est ici, puisqu'on est encore sur le bateau l'Astrolabe, avec une partie du groupe qui va constituer votre groupe d'hivernants à Dumont-d'Urville, c'est qu'on voit tout de suite quelque chose vraiment de ce sentiment de faire partie d'un groupe qui, de facto, immédiatement, se met à nouer des liens, et des liens de proximité, d'amitié, de convivialité qui sont très forts en quelques heures à peine, hein, puisqu'on est juste 3 jours après le départ.
Oui, complètement. C'est... Il y a tellement de demandeurs et tellement peu d'élus que je pense que tout le monde inconsciemment est content de la chance qu'il a. Et il y a un énorme mélange de populations, hein, de catégories sociales, d'âge, de culture, d'ouverture d'esprit, de plein de choses. Les gens laissent à la porte leur petite chapelle et puis effectivement se retrouvent au sein d'une communauté dans laquelle généralement ils se reconnaissent.
C'est aussi reconstitué d'une certaine façon ces noyaux que l'on laisse derrière soi quand on part pendant un an, qui constitue une sorte de sacrifice tout de même.
Ah oui, complètement, oui. De sacrifice et quelque part un peu d'égoïsme aussi, parce que moi je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai beaucoup navigué, j'ai été beaucoup absent, et malgré tout je continue à abandonner entre guillemets ma petite famille pour aller quelque part vivre ma vie. Mais effectivement, il y a cette dimension familiale, elle manque. Et effectivement, c'est une façon de compenser, et je pense que tout le monde en a besoin. C'est vrai.
Et en plus, ce qui est chouette, c'est que peu importe qu'il soit électricien ou scientifique ou boulanger ou chef technique, il y a certaines barrières qui sont cassées en Antarctique, et elles continuent de l'être. Je veux dire, le point commun, c'est l'Antarctique, et ça suffit bien. Ça, c'est sûr, c'est une utopie collective. On nettoie tous les toilettes, chacun notre tour. On est tous chargés de faire fonctionner la base, même les tâches ingrates. Et c'est un milieu extrême dans plein de sens. J'ai pas l'impression d'une mise en danger en fait en permanence. Quand je sortais m'occuper de mon télescope, il faisait très froid certes, mais j'arrivais dans le shelter, dans le laboratoire qui était collé au télescope, et il faisait 15-20 degrés. Donc voilà, vite on se réchauffe. C'est sûr que par exemple changer un boulon, ça prend une heure alors que ça devrait prendre 5 minutes parce qu'on a froid aux mains, qu'on est obligé de re-rentrer, ressortir, on fait tomber le tournevis, oh mon Dieu, il faut le trouver dans la neige. Tout est plus long, tout est plus compliqué, tout est plus physique. Ça oui.
Ça charrie, hein.
Gabriel, second, entre le 170 et le 230, en gros, c'est homogène, c'est à peu près le même pack qui paraît assez lâche. Et donc ici, un petit nautique... une grande densité avec du bergibite.
Ouais, bien reçu. Donc là, le cap moyen, c'est du 195 à peu près.
Un bergibite, qu'est-ce que c'est ?
Un bergibite, c'est un morceau d'iceberg.
Donc, Jérôme Fournier, vous êtes ?
Alors, je suis chargé de recherche au CNRS, en Terre d'Île, ce sera la 6e fois. En revanche, c'est déjà ma 21e mission polaire, puisque j'exerce ce travail également en Arctique et dans les îles subantarctiques.
Vous êtes plongeur aussi ?
Également, puisqu'en biologie marine, on est amené à effectuer des prélèvements d'organismes marins. Et parfois, on est obligé en fait, de mouiller la chemise dans le sens propre comme au sens figuré. Et effectivement, on est obligé de s'immerger pour aller récolter à la main certains organismes clés pour après les étudier en aquarium ou au contraire les inventorier. Et il se trouve que ces dernières années, au lieu de trouver de l'eau liquide, on a trouvé de la banquise, même au cœur de l'été austral. Et donc, on a été obligé d'utiliser la plongée pour trouer la banquise et plonger sous banquise, récolter des espèces qui nous intéressaient. C'est encore une fois, c'est l'Antarctique, c'est un endroit où la nature encore, c'est elle qui commande. Et donc, on fait des trous dans la banquise, on s'organise, on organise la sécurité, puisqu'on n'oublie pas qu'on est en milieu extrêmement isolé, avec un hôpital qui est au mieux quand l'Astrolabe part à une semaine de la base. Et quand l'Astrolabe est parti, ben, le premier hôpital est à un mois.
On sent déjà ici qu'il y a une sorte de communauté polaire particulière, qu'il y a une vraie mixité. Comment est-ce que vous l'apercevez, vous, cette communauté polaire? Comment est-ce que vous l'avez intégrée, puisque vous faites partie, on sent bien, de ces piliers un peu sur ce bateau, en tout cas?
Ben, c'est une vie de communauté, hein. C'est un peu la même vie à bord de bateau, hein. C'est pour ça que généralement, les gens qu'on retrouve en mission océanographique, on les retrouve parfois en mission polaire, cette vie sur base où effectivement tout le monde a une importance, c'est des bases scientifiques, mais sans la logistique, elle n'existerait pas, et puis sans scientifiques, ben, les bases n'auraient pas de raison d'exister. Donc c'est vraiment une micro-communauté un peu égalitaire, un peu même rêvée, idyllique, c'est assez étonnant, puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vivre à la fois au quotidien avec son maire, son plombier, son charpentier, son boulanger, et c'est vrai qu'on partage tous un moment ensemble, mais il faut savoir accepter cette vie communautaire qui n'est pas toujours facile non plus, et ça peut agacer certains. Alors après, il faut l'accepter.
Qu'est-ce qu'on voit aux jumelles ?
On voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace, quoi.
Alors Gaëtan, ça fait quoi de voir les glaces ?
C'est émouvant.
Qu'est-ce que vous voyez là ?
Ben, on voit une mer qui est envahie par des glaçons de plus en plus nombreux. Et ben, bientôt on va rentrer dans le pack. Avec le ciel qui est uniformément gris et la mer qui est grise aussi, et juste des taches de blanc qui correspondent aux glaçons.
Vous avez mis votre bonnet à l'envers?
Ah oui.
C'est l'émotion.
Un dernier mot peut-être, là il y a toute une nouvelle génération d'hivernants qui se prépare avec, évidemment, plus on approche de la base du Mont d'Urville, un peu plus d'excitation, de doute aussi, un peu d'appréhension forcément. Il y a une transmission qui se fait des anciens vers les nouveaux. Il y a des questions, il y a quelque chose de l'ordre de la cooptation un peu.
La cooptation, je sais pas, mais en tout cas le partage d'expérience, c'est sûr. Là, depuis qu'on est parti de Paris, finalement les questions se multiplient avec ceux qui ont la chance d'y être allés déjà précédemment. Et effectivement, les questions se multiplient. Une fois que le bateau est parti, on ressent l'isolement et on se dit que voilà, il n'y a pas moyen de retour, pas possible. Hein. Donc effectivement, on peut développer parfois un sentiment qui pourrait être proche d'une forme de claustrophobie ou quelque chose comme ça. Et donc, pour éviter ça, effectivement, les jeunes se rapprochent des gens un peu plus expérimentés. On sert de tonton.
On sent beaucoup de bienveillance, en tout cas.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est des jeunes... Franchement, je les admire aussi, parce que partir comme ça, vivre en communauté, sans finalement se connaître beaucoup à l'avance, pour presque 12 ou 14 mois, c'est quand même une expérience assez particulière. Ils restent tous marqués à vie, généralement, mais ils sont tous très heureux d'avoir réalisé cet hivernage. Et nous, on revient les voir l'année d'après, voir un peu comment ça s'est passé.
Demain, la glace arrive, elle cogne contre la coque du bateau. Du Mont d'Urville est en vue, mais l'accostage est plus compliqué que prévu. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier, avec Jacques Bazin, Claire Valentin, Christophe Leroy dos Santos, Alain Quivoron, Gaëtan Hems, Bruno et Jérôme Fournier. À suivre.